Deuxième partie. Chapitre 33. Samuel. The Times. Lundi 24 juin 2019. Le Metropolitan de Londres a ouvert une enquête après la découverte, il y a quelques jours, de restes humains sur les berges de la Tamise. Les ossements trouvés par un promeneur ont été identifiés comme ceux de Bridget Dunlop Evers, surnommée Birdie, dont les parents avaient signalé la disparition en 1996, alors qu'elle était âgée de 32 ans. Birdie faisait partie du groupe The Original Version, connu pour plusieurs tubes à la fin des années 1980. Selon la famille de la victime, Birdie Dunlop Evers s'était brièvement retrouvée sans domicile avec son compagnon Justin Redding, percussionniste dans le même groupe, mais ils avaient probablement été accueillis par une amie qui vivait dans une grande maison. L'enquête initiale n'avait pas abouti, et cela faisait 3 décennies que l'un et l'autre n'avaient pas donné signe de vie. Quiconque détenant des informations concernant les agissements de Madame Dunlop Evers et de M. Redding au moment de leur disparition est invité à contacter la police rapidement. De la même façon, quiconque ayant des informations sur la localisation de la maison où le couple aurait pu élire domicile est prié de se manifester. Un portrait de Birdie pris du temps où elle jouait dans le groupe illustre l'article. Elle y porte un bandana au motif floral autour du cou et tient un violon sur son épaule. Elle a les cheveux châtain clair, fins et longs, avec une frange bombée. Ses yeux plissés défient le photographe. Sa bouche est volontaire, maquillée de rose, et elle a un menton fuyant, comme l'avait prédit la reconstitution faciale. La légende indique Birdie Dunlop Evers, dont les restes ont été retrouvés sur les berges de la Tamise. Je clique pour lire les commentaires figurant sous l'article. Les gens se souviennent sans enthousiasme d'une de leurs chansons restées numéro 1, car apparemment tout le monde l'avait trop entendue cet été-là. Certains ont des mots un peu plus respectueux, d'autres savaient qu'elle avait disparu au milieu des années 90. Les concerts qu'ils avaient donnés dans les années 80 sont aussi évoqués. Quelqu'un se souvient d'avoir rencontré Birdie. Elle était toute petite, assez sympa. Elle avait signé ma main. Elle sentait l'eau de toilette White Musk du Body Shop que tout le monde portait à cette époque. C'était une violoniste talentueuse, avec une formation classique. C'est terrible. Toutes mes pensées vont à sa famille. Je les lis tous. Aucun lecteur ne considère la nouvelle comme une information de premier plan. C'est une note de bas de page, un fait divers, un article qui ne devrait pas tarder à quitter le top des 10 informations les plus lues sur le site de la BBC. Si l'on veut toucher les bonnes personnes, celles qui pourraient savoir ce qui est arrivé à Birdie, c'est maintenant ou jamais. Je fixe mon téléphone du regard, comme si cela pouvait l'encourager à sonner. Rien. Je me retourne vers mon ordinateur et continue à explorer ce qu'Internet sait de Birdie Dunlop Evers et de The Original Version. J'ai épluché les dépositions des autres membres du groupe après sa disparition. Birdie avait été intégré pour son talent, mais il n'y avait ni camaraderie ni amitié entre elle et eux. Personne n'avait la moindre idée de ce qu'elle avait pu faire au cours des 2 années précédentes. Aucun d'eux n'avait l'air de s'y intéresser. Il la décrivait comme une femme froide, secrète, difficile et exigeante. Il parlait de Justine comme d'un hippie, un rêveur, un homme trop gentil pour elle. Je fais défiler les rares photos de Birdie que je trouve sur Internet. Elle a disparu avant la popularisation d'Internet, et il n'y a pas vraiment de traces d'elle en ligne. Il y a tout de même une image qui revient sans cesse. Birdie porte un chapeau en velours, une chemise avec une immense lavalière en satin, le menton posé fermement sur son violon, une lueur de défi dans le regard, et fait la moue. À l'arrière-plan, je remarque un large fauteuil rouge qui fait penser à un trône, un lambris foncé qui recouvre la moitié inférieure du mur, des appliques lumineuses en tissu, et un objet qui ressemble à la tête d'un animal empaillé. Une idée me vient. J'effectue une recherche inversée pour voir sur quelle autre page elle a été postée. J'obtiens 18 résultats. Je les étudie l'un après l'autre. Surtout des sites nostalgiques. Des articles du genre « Que sont-ils devenus ?» Mais le 9e résultat me mène vers une vidéo YouTube. Il semblerait que l'image de Birdie jouant du violon devant l'espèce de trône en soit issue. Le clip de leur tube. Je n'étais pas au Royaume-Uni en 1988. J'avais 5 ans et je vivais au Ghana. Je ne connaissais rien à la pop. J'ai découvert ce genre musical en arrivant à Londres quand j'avais 13 ans. Et à ce moment-là, The Original Version n'était déjà plus qu'un lointain souvenir. Je ne connaissais pas le clip de chanson dont on avait apparemment bassiné les oreilles de tout le monde cet été-là. J'agrandis l'image et je lance la vidéo. Les différents membres du groupe sont tous vêtus de la même manière, avec de longs manteaux, des fanfreluches, du velours, du maquillage. Ils se pavanent en descendant un escalier en acajou qui débouche dans un vaste hall. Dans cette pièce se dressent 2 trônes d'un rouge chatoyant. L'un des musiciens saute sur l'un des sièges et frappe de ses baguettes un tambour attaché à son cou. La caméra pivote vers un autre coin de la pièce et suit 2 musiciens qui entrent en trombe dans un fumoir. Une femme leur tend des verres d'un alcool ambré. L'un d'eux grimpe sur le bar et il porte des bottes hautes à lacets. La chanson est entraînante, amusante. Je comprends pourquoi elle a eu tant de succès. Le clip est péchu et captivant. Les 2 hommes sortent du fumoir et passent dans une pièce au mur couvert de tableaux avec un énorme lustre à bougie, ou plutôt à ampoule en forme de bougie. Ils changent à nouveau de décor et reviennent dans le hall, où ils croisent Birdie avec son chapeau en velours, ses lèvres écarlates, son violon. J'arrête la vidéo. C'est là, le moment précis de son portrait. Ce lieu m'intrigue. Je reprends la lecture de la vidéo. Le fumoir me donne l'impression qu'il s'agit d'un club privé, ou quelque chose du genre. Je me demande où se trouve cette maison. Puis, soudain, la porte d'entrée s'ouvre en grand, révélant un beau jardin avec des haies taillées à la française et 2 canons posés sur des piédestaux. Et le groupe s'avance dans l'allée centrale en continuant à jouer. Le visage du chanteur occupe la majorité du chant. Il se penche vers l'objectif comme si le caméraman était quelqu'un de très petite taille. L'image pivote, et nous voilà au bord de la Tamise, à Chelsea sans doute. La caméra tourne à nouveau, et je vois enfin la façade du bâtiment. Une grande maison de 3 niveaux avec la porte d'entrée au centre, des fenêtres de chaque côté, 4 au rez-de-chaussée, 5 au premier, 5 au second. J'en ai le souffle coupé. Je mets sur pause et j'observe cette demeure. La vidéo date de 1988, l'année même où, selon Philip Dunlop Evers, Birdie a cessé de donner des nouvelles à ses proches, où ils l'ont vue pour la dernière fois, au moment où elle allait perdre son logement parce qu'elle avait adopté un chat sans permission et qu'une amie possédant une grande maison lui avait proposé de les héberger quelque temps. Je fais une capture d'écran et je sors de mon bureau, attrapant mon collègue Donald au passage. « On va où, chef ?»« À Chelsea, Donald. On va faire une petite promenade. »